Voilà, bonjour à tous, rebonjour. C'est bien, on mange dehors ce midi, non? Non, on ne mange pas dehors? À cause des moustiques? Bon. Bien, vendredi, je terminais mon message sur cette belle parole de Jésus. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Vous vous rappelez? Mais c'est formidable. C'était le jeune homme riche. Il ne fut pas dans la possibilité d'accomplir ce que Jésus voulait. Mais, par contre, ça c'est dans Luc 18. Par contre, quand vous lisez Luc 19, alors vous allez voir que ça a été rendu possible pour un homme. On va lire Luc 19, 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je vais vous asseoir. Il est devenu capable en un instant. Dis, il est devenu capable en un instant. Dis-le, il est devenu capable en un instant. En Luc 18, le jeune homme était incapable. En Luc 19, l'homme vieux était capable. Est-ce que ça vient du fait qu'il était vieux? Non. En Luc 18, Jésus s'est adressé au jeune homme qui ne pouvait pas l'entendre. En Luc 19, Jésus n'a rien dit, mais l'homme, le vieil homme, a cru. Vous voyez la logique humaine et la logique divine. Pourquoi est-ce que cela a été impossible au jeune homme? Parce qu'il ne croyait pas que Dieu était capable. Il ne voyait que son incapacité à lui. Si vous pensez, si vous attendez pour vous tourner vers Dieu, d'être capable... Vous pourrez attendre toute votre vie. Vous êtes incapables. Vous êtes des incapables patentés. Quand je dis vous, je aussi. Dieu le sait. Mais c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu sait que nous sommes incapables et il le fait à notre place. Il nous donne la possibilité, la capacité. Au chapitre 19, le salut est entré dans la maison de Zachée, parce qu'en vrai fils d'Abraham, il a eu la foi. Voilà pourquoi Jésus dit que c'est un fils d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi, c'est-à-dire c'est celui qui a montré qu'est-ce que c'est la foi. Aimer, je peux pas. Je voudrais bien, mais je peux pas. Aimer, je peux pas. Être patient, je peux pas. Je voudrais tellement, mais je peux pas. Non, vous n'êtes pas comme ça, hein? Être humble, je voudrais. Je peux pas. Être doux, moi, je voudrais tellement. Mais je peux pas, quand ça sort, ça fait paf. Je voudrais bien. On va appeler comme ça cette prédication. Je voudrais bien, mais je peux point. D'accord, Richie, on appelle comme ça. On va mettre ça sur le net. C'est un titre accrocheur, non? Mais, mes frères et sœurs, vous pouvez pas. D'accord, on peut pas. Voilà, bon, on peut pas. Mais où est-ce que Dieu demande dans la Bible de faire quelque chose qu'on peut faire? Où est-ce qu'il demande que nous vivions des choses qu'on a déjà vécues? Il nous ordonne de faire ce qu'on ne peut pas faire, tout le temps. Et il nous demande de vivre comme on n'a jamais vécu, tout le temps. Et là, ça les frustre, moi non. J'ai trouvé le matin, je me lève, le matin quand je me lève, le matin, je me lève, et je remercie Dieu parce que je crois que ce jour que Dieu a fait va être un jour où il va faire des miracles. C'est lui qui a tout fait. Ce jour que Dieu a fait, il l'a fait. C'est déjà fait. Eh bien, je crois que pendant ce jour-là, Dieu va faire des miracles. Quoi ? Eh bien, de me donner la capacité. Je crois. Voilà, j'ouvre les rideaux du théâtre, c'est-à-dire mes paupières, et je me trouve sur la scène de ma vie. J'ai le rôle principal dans ma vie, vous avez le rôle principal dans votre vie, et vous dites merci mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu vas faire des miracles, c'est-à-dire que tu vas me rendre capable d'être patient, d'être doux. Je le crois. Remerciez-le tous les jours. Ce qui est impossible, ce qui vous est impossible, lui est possible. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est pas « fais ceci, fais cela, des religions. Fais comme ci, fais comme ça, si tu fais pas comme ça, tu vas les crier en enfer. » Arrêtez avec ça. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Je vais vous lire encore, vous pouvez rester assis. Galates 2, 20 ou 26, ça va dépendre de mon écriture. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi à ma place. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Et puis, Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vie victorieuse, c'est Christ. Alors ça, c'est très religieux. Hein. Moi, pendant des années, j'ai rien compris. Les gens me disaient, Jésus a dit, je suis la vie. Ça veut dire quoi ? C'est des phrases religieuses qui sont jolies, mignonnes, mais ça veut dire quoi ? Dans la réalité, ça change quoi ? De savoir, bon, il a dit, je suis la vie. Je suis la vie. Il a dit, je suis la vie. Bon, alors on va réfléchir. Comment imaginer qu'il puisse être la vie ratée ? Il ne peut pas être la vie ratée. Il est la vie victorieuse. S'il est la vie, il est la vie victorieuse. Il ne peut pas être une vie ratée. C'est la vie victorieuse. C'est une évidence. Vous avez qu'à lire la Bible. Il est un victorieux. Il est un victorieux pour quiconque croit, parce que ceux qui ne croient pas, ils disent c'est un raté qui a fini mort sur une croix, comme un misérable criminel. Celui qui a la foi, il sait que s'il est mort comme ça, c'était qu'il est mort à notre place. En fait, c'était sa plus grande victoire, c'est qu'il était en train de nous racheter, de payer le prix pour que nous puissions être sauvés. C'était sa plus grande victoire. C'est un autre regard, simplement. Jésus-Christ n'est pas mon amélioration. Jésus-Christ n'est pas mon progrès petit à petit. Il ne me demande pas de travailler avec mes propres forces en me disant « je vais passer tout à l'heure pour voir si tu as fait des progrès pour me ressembler ». La victoire, c'est Jésus qui vit en moi. C'est ça, je suis la vie. Il est ma vie. Il vint, du verbe vaincre, pour moi, c'est-à-dire à ma place. Et puis il l'a déjà fait, c'est déjà fait, la victoire elle est déjà faite. Il dit « si je vis dans la chair maintenant, je vis cette vie dans la foi ». Dans le Seigneur Jésus-Christ qui a tout vaincu. Tout comme Jésus-Christ est mort sur la croix à ma place, pour que je puisse être sauvé, j'étais pécheur. Vous étiez pécheur. Pécheur perdu. C'est-à-dire coupé de Dieu. Dieu ne peut supporter le péché. Et à cause du péché que nous avons commis, il nous a rejetés. Nous étions perdus, loin de lui, loin de la vie, parce qu'il est la vie, il est l'auteur de la vie. Jésus a dit, bon, la justice de Dieu, c'est ça. Mais l'amour de Dieu, c'est le pardon. Et il est venu pour que nous soyons pardonnés. C'est-à-dire que le prix de ce que méritaient nos péchés, c'est-à-dire la punition que méritaient nos péchés, c'est Jésus qui a pris ça sur lui. Il est mort à notre place. Il a payé pour que nous puissions être sauvés. Il l'a fait il y a 2000 ans. C'est un fait accompli. Il l'a fait. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, quiconque, n'importe vous, moi, n'importe qui, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire, c'est tout, croire, croire. Il n'a pas dit, il faut faire ci, puis il faut faire ça, puis il faut aller à l'église, puis il faut faire des machins, des neuvaines, des patins, des couffins, des couffers, des machins, rien de tout ça. Il a dit, crois, si tu crois. Tout comme il est mort sur la croix à ma place pour que je puisse être sauvé, pour que je puisse avoir la vie éternelle, il vit en moi aujourd'hui pour que je puisse vaincre au quotidien. La même chose. La condition de cette victoire, c'est que j'abandonne ma façon de faire pour simplement croire que c'est lui qui va le faire au travers de moi. C'est tout. C'est compliqué ou c'est facile? C'est facile, mais c'est tellement facile que c'est compliqué. Parce que nous, on voudrait bien faire quelque chose. Bon, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu qui vit en nous. Et nous croyons aussi, donc, qu'il réalise sa victoire à travers de nous. C'est ça, Jésus est la victoire. C'est ça, Jésus est la vie. Il est la vie en moi. S'il n'est pas lui, je ne suis pas. Les gens qui disent « je ne crois pas en Dieu », la Bible dit « ce sont des insensés ». Un jour, je parlais avec une dame, elle me dit, ouais, s'il y avait un Dieu, mon mari ne serait pas mort. Je dis, ah, bah, écoutez, voilà, s'il n'y avait pas de Dieu, votre mari ne serait même jamais né. Oh, parce que les gens ne réfléchissent pas. Ils disent, je suis athée, mais ce n'est pas vrai. C'est parce que simplement, ils n'ont pas réfléchi. C'est pour ça que la Bible dit, ce sont des insensés. Ce n'est pas pour se moquer d'eux, c'est parce que c'est vrai. C'est comme si quelqu'un me dit, oh, ta montre, elle est belle, un Breitling, super, magnifique, tout ça, formidable, génial et tout. Mais il n'y a pas d'horloger qui l'a faite. Non, c'est l'évolution. Au cours des siècles, il y a eu un Big Bang. C'est vraiment facile, hein, personne n'y étonne, n'a pas vu. Il y a eu un Big Bang, puis voilà, les petits rouages sont mis en place, et puis ça fait tic-tac, puis ça monte l'heure très précisément, puis c'est écrit Breitling dessus, génial. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'horloger, personne n'a fabriqué ta montre. Eh bien, c'est la même chose quand vous me dites qu'il n'y a pas de Dieu. Ah non, il n'y a pas de Dieu. Il y a eu un Big Bang, personne n'était là pour le voir. Hein? Bien sûr, personne n'était là pour le voir. Mais c'est plus logique de penser qu'il y a un créateur. C'est plus logique de penser qu'il y a un horloger. Mais vous n'êtes pas logique. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes des insensés. Croire, c'est la seule chose. Croire, parce que c'est la plus difficile. Parce que ça demande de l'humilité. De dire, oui, il y a quelqu'un au-dessus de moi. Et puis je ne veux pas seulement dire il y a quelqu'un, je veux savoir qui c'est ce quelqu'un. Alors je vais commencer à lire la Bible, je vais lire aussi d'autres trucs. Je vais lire le Coran, je vais lire les machins védiques, je vais lire tout ça. Et puis, je vais bien voir qui c'est qui dit la vérité. Et est-ce que vous avez lu la Bible? Si vous lisez la Bible, vous êtes obligé de croire que c'est Dieu qui est Dieu. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Il est le seul. Priez Mahomet, vous allez voir s'il répond, s'il fait marcher les paralytiques, si les aveugles voient. Quand les musulmans voient, quand je prie Jésus et que les aveugles voient, quand ils voient ça les musulmans, ils abandonnent leur religion et leur prophète mort pour suivre mon Jésus vivant. Et Amen. C'est pas qu'on est supérieur, on a la vérité. Merci Seigneur, c'est tout, c'est super. Je préfère être dans la vérité que dans l'erreur. Croire. Croire. Alors, je vous disais que pour résoudre les problèmes qui sont les vôtres, manque de patience, manque de machin, patin, couffin, c'est d'abord le lâcher prise. Lâcher prise avec Jésus, ça ne vous laissera pas dans le vide. Si vous croyez qu'il prend le relais, c'est ça la question. Parce que lâcher prise sans la foi ne vous procure pas la vraie victoire. Pourquoi? Ben c'est simple, écoutez bien, vous allez comprendre. Le lâcher prise, c'est la facette négative. Tandis que la foi, c'est la facette positive. Vous avez toujours dans la dichotomie, vous avez toujours la gauche et la droite. Une pièce d'un euro a toujours deux côtés. Il y a toujours partout le haut et le bas, la gauche et la droite, le petit et le grand, le gros et le maigre. C'est toujours deux. Eh bien, pour la victoire, il y a deux. Il y a le côté négatif et le côté positif. Le côté négatif, c'est de lâcher prise. C'est une chose qu'il faut commencer par faire. Et puis, le côté positif, c'est de croire. J'explique. La victoire est assurée par la mise en œuvre des deux facettes. Pensez à Paul. Paul, son premier pas, c'est d'avoir abandonné sa vie. Il dit, mourir à moi-même. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quand on était crucifié avec Christ et que Christ est mort, nous sommes morts avec lui. C'est-à-dire, croire qu'il y a 2000 ans, ça a été fait. Moi, Michel Janton, il y a 2000 ans, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que c'est difficile à croire? Ça serait difficile si ça vous coûtait 1000 $. Mais ça ne vous coûte rien. C'est ça qui est embêtant. J'aimerais que ça nous coûte quelque chose. C'est pourquoi les gens vont faire des religions compliquées, où ça leur prend beaucoup de temps, où ça leur demande des tas de sacrifices, parce qu'ils aiment bien ça. Hein? Alors, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, tel et tel jour est saint, tel et tel jour est ceci, puis il faut faire comme ci, puis il faut faire comme ça, ça leur coûte quelque chose. En gros, ça les embête, mais bon, ils le font, puis ils se sentent saints de le faire, parce qu'ils ont fait des sacrifices. Jésus ne veut pas de vos sacrifices, il s'est sacrifié lui-même, il est le sacrifice. Mais pas seulement pour notre salut, mais pour notre victoire aussi. Jésus-Christ a été crucifié et il dit que nous avons été crucifiés en lui. C'est fait déjà. Et Paul, il avait fait cette expérience du « ce n'est plus moi qui vis ». Et ensuite, il a déclaré « ma vie présente », c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, « ma vie présente, maintenant que je connais Christ, maintenant que je sais que j'ai été crucifié avec Christ, ma vie présente, maintenant, dans la chair, je la vis dans la foi, justement, au Fils de Dieu. J'ai foi en lui ». Par là, Paul est en train de nous dire qu'il croit que le Fils de Dieu l'aime, lui, au point d'être venu habiter en lui et de vivre au travers de lui. C'est ça le message qu'on a reçu et qu'on doit dispenser autour de nous. Parce que le monde en a cruellement besoin. Toutes les familles de la terre ont besoin de ça. C'est un message rédempteur, c'est un message positif, c'est un message libérateur. Un peu plus compliqué que simplement, si tu veux être sauvé, il faut faire des messes, il faut payer. Puis tu sortiras peut-être du purgatoire. Ça demande une réflexion, ça demande de la soumission. Frères et sœurs, tout ce qui est dans la Bible a été fait par Dieu pour nous. C'est écrit que c'était fait pour nous ses enfants. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une alliance, il a fait une alliance avec nous. Il a tout accompli pour nous. Il a dit en mourant sur la croix, tout est accompli, tout est fait. Ta victoire, là, ce que tu pries depuis longtemps, arrête, c'est fait. Tu pries trop. Il nous a fait des promesses. Et tout est là dans le livre, tout est là. Du fait accompli jusqu'à la promesse, tout est là. Tout est dans le livre. La promesse, c'est ce que Dieu fera pour nous. Le fait accompli, c'est ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait, c'est qu'il a tout accompli sur la croix. Maintenant, la promesse, c'est qu'il ça deviendra réel dans ta vie au quotidien. Il l'a fait il y a 2000 ans sur la croix. Dieu est en dehors du temps. Nous, on est coincés dans le temps. C'est-à-dire que ce qu'il a fait il y a 2000 ans sur la croix sera valable demain, qui n'existe pas encore. Mais déjà maintenant. Et ce qu'il a fait, c'est déjà en nous. Puisqu'il vit en nous, il vit en nous avec tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il est, c'est en nous. Il l'a dit. Voilà pourquoi il se passe des miracles. Alors, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, « Ah oui, nous aussi, nous faisons des miracles. Oui, oui, bien sûr. Hein, nous imposons les mains, et puis je remène, et puis voilà. » Oui, j'ai ouvert une boutique, il m'a dit. J'ai ouvert une boutique à Paris pour opérer des guérisons miraculeuses. J'ai dit, ah bon, oui. Et puis oui, puis l'autre aussi m'a dit, oh, mais je fais des miracles et tout. Ah bon. Je les ai invités à venir en Afrique. Quand ils ont vu les jambes de 14 cm se rallonger, quand ils ont vu en public devant 2000 personnes, quand ils ont vu des aveugles retrouver la vision, ils ont dit, ah non, c'était pas ce genre de miracle qu'on fait, nous. Mais est-ce que je fais des miracles? Non, c'est Jésus en moi. Mais Jésus n'est pas en eux. Alors eux, leur miracle qu'ils font, attends, c'est un petit massage, un petit soulagement. Le seul qui fait vraiment des miracles, qui peut rendre la vie aux aveugles, c'est qui? C'est pas Michel Janton, c'est Jésus, on le sait bien. Parce qu'il est la vie. Il est la vie de vos nerfs optiques, il est la vie de tout. Ce que le diable a cassé, il peut le réparer, c'est pas un problème pour lui. C'est déjà en nous. Ce qu'il a fait, il l'a fait à notre place. C'est comme si c'était nous qui l'avions fait. Voilà pourquoi nous pouvons le faire. J'espère que vous avez compris ça. Je l'ai dit très vite, hein. Je l'ai dit très vite. Réécoutez. La croix, c'est un fait accompli par Dieu. Bon, alors, il est mort pour tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Alors, comment se fait-il que tout le monde n'est pas sauvé? Comment se fait-il? Puisqu'il est mort pour sauver tout le monde. Comment ça se fait qu'il y a toujours tant de misère, tant de péché, tant d'horreur, tant de méchants, tant de crétins surtout? Eh bien, comment se fait-il? Il est mort pour tout le monde. Comment se fait-il que tout le monde n'est pas sauvé? C'est ceux qui croient, il l'a dit. C'est ceux qui croient. Le fait accompli par Dieu a de la valeur pour celui qui lui accorde foi. C'est tout ce qu'il vous demande. De même, beaucoup de chrétiens n'ont pas accepté dans la foi que Christ vit en eux. Si vous croyez que Jésus-Christ vous a sauvé, vous avez un sauveur. Vous l'honorez en croyant que ce qu'il a fait est vrai, alors vous avez un sauveur, ça veut dire que vous êtes sauvé. De même, si vous croyez qu'il vit en vous, vous allez le voir vivre devant vous et faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Voilà pourquoi il vous demande de faire des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est que Christ en vous qui peut le faire. Face au fait accompli par Dieu, est-ce que vous voyez vraiment que c'est Jésus qui est votre tête dirigeante? Jésus vous conduit-il ou c'est vous qui vous prenez tout le temps en main? Où se trouve la difficulté? Uniquement dans un manque de foi. Uniquement. Bon, alors je sais que la plupart des chrétiens croient que Jésus est leur tête. Ils le croient. Mais ils ne peuvent pas croire que cette tête, attention, est responsable de tout. Ils n'arrivent tout simplement pas à y croire. C'est un manque de foi. Écoutez bien ça. J'ai déjà dit, mais je redis. Jésus est le cep et vous êtes le sarment. Vous n'êtes pas rien du tout. Vous êtes le sarment. Mais le sarment sans cep. Maintenant, Jésus n'a pas dit, je serai votre cep et vous serez mes sarments dans un monde futur où tout sera merveilleux, le lion sera avec la brebis, la lie, la lèrre. Non, c'est maintenant. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Alors, que vous le croyez ou non, ça n'empêche pas qu'il est le cep. Mais la sève spirituelle, la vie, l'essence même de la vie de victoire, ne circulera qu'en ceux qui croient. C'est ça. Et le résultat, c'est qu'au bout du compte, ceux qui croient porteront du fruit. C'est pourquoi Jésus dit porter du fruit. Mais ce n'est pas le cep qui porte des fruits. C'est le sarment, mais le sarment ne porte du fruit que si la sève passe du cep au sarment. Vous avez déjà vu la vigne commencer. Porter du fruit, c'est ça la volonté de Dieu, c'est ça que Dieu veut. Il veut que ce soit vous qui portiez du fruit, mais en réalité c'est lui qui en porte. Si seulement vous laissez sa vie passer en vous, si seulement c'est sa vie qui passe en vous et non pas la vôtre. Hébreux 11 nous dit que la foi, qu'est-ce que c'est la foi? Eh bien, vous savez que vous pouvez chercher dans toute la Bible, c'est le seul verset qui donne la définition de ce que c'est que la foi. Pourtant c'est quelque chose de très important la foi. Eh bien c'est le seul verset. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors j'ai regardé en hébreu, en grec, tout ça, comment c'est écrit. C'est très compliqué. Le mot assurance, c'est pas vraiment ça. C'est un peu faible, le mot assurance. Il y a quelque chose de plus fin, et on pourrait dire autrement la chose. Mais attention les baskets, c'est terrible. On pourrait dire, à la place de assurance, on pourrait dire ce qui justifie. Ça veut dire, la foi est la capacité de justifier le caractère du fait accompli par Dieu. Je répète, la foi est la capacité de justifier le caractère du fait accompli par Dieu. Vous voyez, c'est à peu près la même chose qu'assurance, mais c'est plus fort encore, plus subtil. Regardez-moi. Je suis là. Mais vos yeux
Sans vos yeux, vous ne me voyez pas.
Ça n'empêche que je suis là quand même.
Ce sont vos yeux qui donnent forme et couleur et volume à la personne que je suis.
Pour vous. Moi, je m'en fous que vous ne me regardiez pas. Mais si vous voulez me voir, c'est avec vos yeux, c'est pas avec vos oreilles. Si vous voulez m'entendre, c'est avec vos oreilles, pas avec vos yeux. Il y a des organes pour voir, des organes pour entendre, des organes pour toucher, pour sentir, etc., etc. Tout ce qui se trouve là ne prend forme pour vous que si vous le voyez. Par exemple, Eric Jacques, vous savez qu'il existe. Il est derrière vous, moi je le vois, mais vous ne le voyez pas. Aucun de vous, vous ne le voyez pas. Et moi je crois, qu'est-ce que je vois? Imbécile. Moi je crois pas à la Chine parce que je ne l'ai jamais vue. Et bientôt je vais la voir, je vais y aller. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais aller bientôt en Chine. Si, je vais aller bientôt en Chine. On va ouvrir la Chine. Par exemple, un sourd n'a aucun moyen de donner corps à la réalité de la belle musique que vous avez entendue tout à l'heure. Il y en a peut-être qui préféreraient être sourds plutôt que d'entendre ça, mais non, c'était très très bien. Et les yeux ne peuvent pas donner corps au son. C'est vos yeux? Non, c'est vos oreilles. C'est-à-dire que on fait pas n'importe comment. Même dans le monde physique, on fait pas n'importe comment. Si je veux voir, j'ouvre les yeux. Ok. Tout ça pour dire quoi? Un objet, c'est une autre chose que ce qui justifie sa réalité. Ce qui justifie la réalité pour vous de ma présence, c'est vos yeux, parce que vous me voyez. Mais moi, je suis autre chose que vos yeux. Mais sans vos yeux, vous ne me voyez pas. Mais ça ne veut pas dire que j'existe pas. Et dans le domaine spirituel, c'est la foi qui justifie la réalité du fait accompli par Dieu il y a 2000 ans sur la croix. C'est un sens, la foi. Comme la vue, comme l'ouïe, tout ça, c'est un sens. Tout ce que Jésus a fait, c'est réel. Tout ce que Jésus a fait, c'est véridique. Mais seule la foi peut l'identifier. Ayez foi, croyez. Mais c'est pas compliqué. Dites simplement, je décide de croire. Voilà, c'est tout. Et à partir de là, Dieu va se révéler à vous. Mais vraiment? Parce que si par exemple vous venez vers moi, puis je vous dis, voilà, moi je m'appelle Michel Jonton, j'ai la possibilité, si vous voulez, de vous loger. Et, moi, je ne le fais pas parce que je suis intéressé dans votre porte-monnaie, mais simplement parce que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Et si vous voulez, vous pouvez venir au château, il n'y a pas de problème. Et tout. Puis vous présentez devant moi, puis je te crois pas. Ben, vous m'insultez. Puis vous n'aurez aucune chance de venir au château, ça je vous promets. Parce que vous m'insultez, vous ne me croyez pas. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Si Dieu vous dit quelque chose, puis que vous dites « je crois pas ben, », reste dans ton caca, mon vieux. Reste là-dedans. Et puis tu peux peut-être trouver même que c'est agréable, à savoir. Il y a des vicieux partout. Hein. Parce qu'il faut vraiment être vicieux pour aimer cette vie ici-bas. Ou inconscient, ou très occupé. Voilà, très occupé. Alors quand on est très occupé, on voit pas la réalité. Mais quand vous commencez à ouvrir les yeux puis que vous regardez ce qui se passe sur cette terre, mais c'est une horreur. On peut pas aimer vivre ici. C'est affreux. On dira, non, c'est beau la vie. Oui, ben alors je te paye le billet d'avion puis je vais t'emmener voir comme c'est beau la vie. On est un pays privilégié, c'est vrai. On n'a que 3 millions de chômeurs. C'est beau la vie ici en France, c'est génial. Mais je vais vous emmener au Burkina, je vais vous emmener à Madagascar, je vais vous emmener en Chine, tiens, on va voir, vous allez voir. C'est beau, comme c'est bien. Je vais vous emmener au Cameroun pour que vous voyez comment c'est bien, la justice là-bas. C'est bien la vie, ah oui, c'est bien. Si vous trouvez que c'est bien, c'est pas... réfléchissez pas. Mais il faut dire ces choses, j'en ai marre de... Moi, je crois que ce que je vois... Pour ceux qui ne croient pas, la mort et la résurrection de Jésus sur la croix, qui est bien réelle, c'est rien. Mais rien du tout, ils s'en foutent. Alors, c'est une chose dont ils se foutent, c'est bien de ça. Et ils n'en tirent aucun profit. Jésus est la tête, nous sommes ses membres, c'est une réalité absolue, c'est une union indivisible
en le croyant, on en tire des bénéfices. Et Payon, mon professeur à l'école biblique, qui disait, si vous êtes jaloux de ce que Dieu m'a donné, faites comme moi, croyez. Il vous honorera, il vous bénira, il vous comblera.
Mais moi, je peux y arriver par moi-même. Ah bon, ben c'est bien alors.
Non mais attends, moi je ne veux pas absolument vous convaincre, vous qui écoutez sur Internet, ou vous qui êtes là, je ne veux absolument pas vous convaincre, vous faire du forcing, vous obliger à croire, pour passer l'éternité avec vous, qui allez râler tout le temps, parce que vous dites, oui j'ai cru, mais finalement j'aimais bien mon péché. Non, non, je ne veux pas passer ma vie éternelle avec vous, restez dans votre péché, s'il vous plaît tant que ça. Un jour quelqu'un a dit, Dieu s'est trompé, le péché est bon. Ah oui, c'est si bon le péché, oui, alors je te souhaite d'être cocu. Ben oui, le péché qu'on fait, bon, mais le péché que les autres font, c'est autre chose. Ça rend malheureux. La foi, ce n'est pas une perception mentale, c'est voir le fait, et c'est prouver le fait. Prouver le fait accompli par Dieu. Alors, vous avez lâché prise, c'est le côté négatif de la facette. Maintenant, ayez foi, c'est-à-dire prouver ce fait. Prouver que Jésus a pris le relais. C'est pour ça que quand je dis par exemple un paralytique, lève-toi et marche au nom de Jésus. Il a lâché prise, il a dit bon, je peux pas le faire. Mais le côté positif c'est de se lever, de prouver le fait accompli par Jésus. Et quand il le prouve, quand il fait l'effort, il s'aperçoit qu'il peut le faire. Et il le fait. Il le fait. J'ai vu ça plein de fois. Ça peut se faire en une seconde. En un claquement de doigts, ça peut se faire. Colossiens 2:10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui, tout pleinement en lui. Mais comment savoir que vous avez tout pleinement en lui? Eh bien, uniquement parce que vous le voyez avec les yeux de votre foi, vous le croyez, voilà, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, j'ai tout. Je n'ai besoin de rien, j'ai tout en Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ, hein, c'est pas par mes propres efforts. Mais si vous vous regardez vous-même, vous allez dire, ouais, mais c'est pas vraiment vrai que j'ai tout pleinement en lui, il y a ça qui marche pas, il y a ça. Confessez ce que vous croyez, pas ce que vous voyez. Jésus dit, on marche par la foi, on marche pas par la vue. On marche pas par nos sens charnels, on marche par la foi. Affirme ce qu'il affirme. Affirme ce que la tête dit, pas ce que tes petites pensées avec ton éducation. J'ai tout en Jésus-Christ. Maintenant. Peut-être n'allez-vous pas tirer de profit de ce que je vous dis. Et peut-être même vous m'écoutez. Mais vous m'écoutez. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il faut écouter Christ qui vient en moi. C'est autre chose. Vous voyez? Sinon, vous ne tirez aucun bénéfice. Je vais terminer en vous disant quelque chose d'étrange. Si vous n'avez pas reçu ce que vous demandez dans la prière depuis si longtemps, c'est parce que vous priez trop. Tout ira bien quand vous changerez votre prière en louange, en gratitude. Le lâcher prise, c'est pas ça la victoire. Sans la foi, on reste incapable de donner corps au fait accompli par Dieu à la croix. Paul disait, oh Dieu, tu es ma victoire. Il disait, oh Dieu, tu es ma sainteté. Ne demandez pas à Dieu la force de vaincre, il a déjà vaincu, c'est un fait accompli. Tout est à vous, croyez-le, expérimentez-le par la foi. Écoutez bien ça. Certains d'entre vous ont trouvé le salut par un seul verset, moi c'était Matthieu 18:19. D'autres c'est Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde. D'autres ça va être Jean 5:24, d'autres ça va être Romains 10:10. Un seul mot de Dieu pour être sauvé. Ça me fait penser à celui qui a dit, Seigneur, si tu dis seulement une parole, je serai sauvé. Eh bien, c'est également vrai de la victoire. Beaucoup sont entrés dans la victoire par Romains 8:3. Je le veux. Seigneur, si tu veux me rendre... Je le veux. C'est sa volonté. Je le veux. D'autres par 2 Corinthiens 12:9, d'autres par Romains 6:14. Vous voyez ce que c'est que d'être spirituel? C'est pas
mettre les mains comme ça jointes et puis prendre un air avec la tête un peu penchée, un sourire niais, genre joconde, et puis battre des paupières. C'est pas ça être spirituel. C'est pas non plus être Philippe Bouvard. On dit, oh, il a de l'esprit, des spirituels, Philippe Bouvard. Vous trouvez, moi, il est plutôt grossier. Enfin, ça me fait rigoler de temps en temps, mais quand même, on ne faut pas dire qu'il est spirituel. C'est pas ça être spirituel. Être spirituel, c'est être mort à soi-même. Croire que Jésus est. Quand Jésus est mort, j'étais mort là avec lui, crucifié avec lui. Et maintenant, je laisse Christ vivre en moi. C'est ça, être spirituel. Jésus-Christ dans ma chair. Jésus-Christ s'est réincarné. Par votre chair, dans votre chair. Il vit à votre place, il vit en vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien, sinon dire merci. Et si vous dites merci, vous savez qu'est-ce que Jésus va vous dire? Il va vous dire, merci de me laisser vivre. Amen. Jésus, je te prie pour que ces paroles un peu compliquées peut-être fassent du bien dans le cœur de mes frères et sœurs, de ceux qui nous écoutent, qu'ils se rendent compte combien ces choses sont réelles, praticables, et qu'ils puissent se réjouir, rentrer dans la gratitude et non pas simplement toujours prier. Et qu'ils entrent dans cette victoire. Et qu'ils soient comme Paul. Maintenant, si je vis dans la chair, c'est dans la foi. Dans le Christ Jésus qui a tout accompli. Merci Seigneur mon Dieu de les inspirer ainsi. Amen. Les musiciens.
Je m'excuse, j'interviens encore, mais c'est pour confirmer ce que Michel prêche, qui est la vie, qui est la parole de Dieu. C'est vrai que chacun ici peut dire, c'est plus moi qui vis, c'est notre désir le plus profond, c'est Jésus qui vit en moi. Et moi, je veux pas rendre témoignage de moi-même, mais je veux rendre témoignage, c'est vrai que nos frères et sœurs qui vivent avec nous, malgré tout, ont aussi une vie extérieure, et nous croyons, même si nous ne voyons pas, c'est aussi la foi en nos frères et sœurs, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, que nos frères et sœurs, même s'ils disent pas tout, ils sont lumière là où ils sont. Jésus se manifeste là où ils sont. Et il m'a été donné de voir mon frère Eric, qui est mon frère dans la chair. Mais ce que j'ai entendu, ça m'a pas réjoui parce que c'est mon frère, je suis sa sœur. Ça m'a pas réjoui parce qu'il est mon frère. Ça réjouit Jésus qui vit en moi. Moi qui suis sa sœur en Christ d'abord. Je suis allée au château des Vaux où mon mari travaille et fait un travail merveilleux. D'ailleurs, tout le monde, aussi bien les jeunes, tous les jeunes le saluent avec respect et affection. Tous les adultes qu'ils croisent le saluent avec respect et affection. Et donc, je vois le travail de lumière que mon mari fait auprès de ce centre, qui est un centre quand même où il y a beaucoup de jeunes en grande difficulté. Et il m'a été donné de rencontrer un jeune qui s'appelle Kevin, peu importe si je nomme son nom. Kevin est venu vers moi et il m'a dit, vous êtes la sœur de Monsieur Ruiz. Je dis oui, je suis sa sœur. Parce que Monsieur Ruiz, c'est le professeur de sport à Bignon que j'ai eu il y a un an, qui m'a appris, et c'était un jeune homme musclé, très musclé, un peu comme Marc, très musclé, très fort, il était avec ses copains, et il me dit, Monsieur Ruiz, il m'a appris que le sport n'est pas seulement une détente, mais c'est aussi une discipline qui apprend à surmonter ses peurs. J'ai fait l'option kayak avec lui et on sait que Eric part souvent en kayak et fait des stages kayak et fait un travail formidable puisqu'il amène des jeunes en championnat de France du NSS, enfin qui est le championnat de France des jeunes qui sont au lycée. On le sait ça, mais on voit pas. Et ce jeune qui est en grande difficulté, il m'a appris la discipline. Je ne travaillais qu'en force. Il m'a appris à travailler technique. Monsieur Ruiz a été le professeur le plus fantastique que j'ai jamais eu. Quand j'ai quitté Bignon, oh Bignon, vraiment, qu'est-ce que j'aimais pas Bignon. Si j'avais pu emmener Monsieur Ruiz avec moi, Mais il avait les yeux qui brillaient quand il me parlait. Et je voyais tous les bienfaits que Monsieur Ruiz, mon frère Eric, avait apportés à ce jeune homme qui est en grande difficulté, puisqu'il s'est retrouvé de Mignon au château des Vaux. Mais s'il avait pu emmener Monsieur Ruiz, qui lui avait tant apporté avec lui, mais ça réjouit mon cœur. Mais je me suis dit, mais quelle lumière! Et Monsieur Ruiz, mon frère, Eric, mais mon frère dans la foi, a apporté à ce jeune homme en grande difficulté, qui je crois, il se aimait. Vous savez comment il a deviné que j'étais la sœur de Monsieur Ruiz, parce que c'est pas Eric, c'est Monsieur Ruiz. Parce que un jour, Eric, il y a un an, lui a dit, tu sais, quand tu pars, tu vas rencontrer mon beau-frère, Jean Volkoff. Voilà, il a juste dit ça. Et il a fait la relation un an plus tard, que Jean Volkoff, il était avec sa femme, et donc je pouvais être que sa sœur. Donc il buvait toutes les paroles de Monsieur Ruiz, pour se rappeler même de cela, de ce détail-là. Autant dire que vraiment, c'est vrai, mon frère Eric, il fait un travail de lumière auprès de ces jeunes. Et c'est vrai qu'être enseignant, c'est un travail difficile. Et je sais aussi que mon frère Eric, Dieu s'est servi de lui. C'est Jésus qui vit en lui, qui fait que mon mari est là, parce qu'il est le fruit de son témoignage. Mon mari est le fruit du fait qu'il ait témoigné que Jésus était mort pour lui. Et donc je sais que cette lumière qu'il est en étant un prof fantastique, merveilleux, que tout le monde admire, eh bien ils savent aussi que c'est un homme de Dieu, que c'est un homme qui confesse sa foi en Jésus-Christ. Quelle lumière qu'on ne voit pas toujours. J'ai parlé un petit peu avec Catherine de son travail qu'elle a fait hier. Son mari prêchait il y a une semaine. Il faut s'investir pour Jésus-Christ. S'investir, se donner. C'est vrai, comme dit Michel, il faut d'abord lâcher prise et après manifester notre foi. Et c'est ce que fait Alain. Il lâche prise, il se confie en Dieu dans la difficulté qui est d'être sans sa femme, sans ses filles, sans ses frères et sœurs qu'il aime tant. Il confesse sa foi et il s'investit. Mais il a aussi le témoignage de sa femme, qui est une femme qui s'investit. Quelle lumière elle est dans cette petite école de Ménil-Thomas. Quand j'entends comment elle a fait ce spectacle, comment elle a construit ce spectacle avec ses élèves, pour qu'ils puissent vivre quelque chose à la fois de ludique et d'intelligent qui les élève. Eh ben, je me dis, mais quelle lumière! Je ne vois pas ce que fait Catherine, mais le peu que j'entends, je dis, mais quelle lumière elle est auprès de tous ces enfants, de tous ces parents, de tous ces enseignants. Et on ne voit pas tout. Et moi, je sais que si Alain nous a prêché l'investissement, il prêche aussi toujours ce que lui vit. Et il vit des choses fortes, Alain, parce que c'est un homme de foi. Et je sais qu'avec Thierry, ils se sont investis. Ils ont sacrifié des choses, ils ont lâché prise face aux difficultés de ce que cela donne. Ils ont lâché prise, se confier en Dieu, parce que c'est vrai qu'ils vivent des choses qu'ils n'avaient jamais vécues. Et je sais que Thierry et Alain, ils vivent des choses, mais fortes, où ils sont lumière là où ils sont, même si je ne les vois pas au Maroc. Je sais qu'ils sont lumière tous les deux. Et je voudrais une dernière fois rendre témoignage de Eric, pas mon frère Eric, mais de Eric Jacques. Excuse-moi de dire Eric Jacques, c'est pour différencier. Eric, il vit un tout petit peu de ce que j'ai vécu, mais ça ne rendra que plus gloire à Dieu, je crois. Il a, et c'est vrai que ça m'a touché ce qu'a dit Mélodie vendredi, elle a confessé, oui, j'étais découragée, mais j'ai enfin lâché prise. Et je crois que Dieu veut le meilleur pour nous, malgré la maladie de mon mari. La maladie a fondu sur Eric, mais Eric a toujours, je crois, lâché prise, s'est confié en Dieu. Et je sais qu'il m'a parlé, il m'a dit qu'il avait lu qu'il fallait louer Dieu en tout temps. Et je sais qu'il le fait, il loue Dieu toujours. Et il lâche prise et il manifeste sa foi en louant Dieu dans la maladie. Dans la maladie, il loue Dieu. Il n'est apparemment, dans l'apparence des choses terrestres, pas guéri. Mais il loue Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il vit actuellement. Difficile ou pas difficile. Et il m'a dit, Et Eric est un homme intelligent, mais l'intelligence vient de Dieu. Eric est une tête pensante, mais cette tête pensante lui vient de Dieu. Il me dit, mais il est possible, après tout, que General Electric m'emploie pour faire le travail que je fais en télétravail, donc chez moi, sans aller faire ces allers-retours à Buc. Quand il m'a dit ça, Eric, j'ai dit, mais quelle intelligence, quel homme de réflexion. Dans la maladie, il réfléchit, il trouve des solutions. Il croit, je suis sûr que Jésus veut le délivrer totalement, mais quoi que Dieu fasse au travers de lui, il croit que Jésus va lui montrer la voie pour qu'il puisse faire, pour qu'il puisse agir et pour qu'il puisse rendre gloire dans ce qu'il vit. Et que même, quoi qu'il arrive, ça rendra gloire à Dieu, ça permettra que sa femme puisse être dans l'abondance, que ses enfants puissent être dans l'abondance. Mais quel homme de foi! Et moi, c'est vrai que Jésus m'a délivré plus rapidement qu'il n'a délivré Eric, parce que notre histoire est différente. Mais c'est Jésus qui se manifeste, mais tellement, il a tellement de choses à manifester au travers de nous. Et nous sommes tous différents. Moi, je rends gloire à Dieu, parce que quand j'entends mes frères et sœurs, je me dis, mais quelle lumière nous sommes dans ce monde! Quand j'entends mes frères parler, essayer de dire ce qu'ils vivent, mais je me dis, c'est la lumière, c'est Jésus qui vient en eux qui fait cela. Et je veux rendre gloire à Dieu aussi pour Michou. Quand je descends la lingerie, quand je vois cette tonne, ces monticules de linge qui sont par terre entre ses mains et qu'elle se baisse des heures pour les ramasser, pour les mettre dans les machines, après pour trouver tout ce linge à qui il est, et il travaillait toujours avec, quand je vais la voir, elle est jamais dans la tristesse pour faire ça, elle est toujours dans la joie. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est beau de voir la lumière de Jésus en elle, qui brasse ces tonnes de linge et qui le fait avec joie. Je lui dis, mais c'est Jésus qui fait ça dans la vie d'une telle femme, ça peut être que Jésus, c'est magnifique. Il m'est donné de voir ça, mais c'est merveilleux de voir ce sacrifice vivant. Et c'est vrai que quand on sacrifie pour Dieu avec joie, mais quelle lumière on est. Et il y aurait tant à dire sur chaque frère et sœur qui manifeste les choses avec lumière. C'est vrai qu'il ne m'est pas donné de voir tout le travail que fait Isabelle à la poste, que fait Marie-Claire aux impôts. Mais nous sommes tous des lumières parce que nous avons consacré notre cœur à Jésus. Nous avons lâché prise, nous nous confions en Dieu dans nos difficultés quotidiennes. Et nous manifestons la foi, et c'est vrai. Quelle lumière nous sommes pour ce monde. Quelle lumière nous sommes pour glorifier Jésus. Et c'est vrai que c'est tellement merveilleux. Pouvoir dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quelle joie de se lâcher prise est tellement bon pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. Et des fois, nous ne voyons pas tout le bien qu'il nous est donné de faire au travers de Jésus-Christ qui vit en nous. Et gloire à Dieu, parce que c'est vrai, nous sommes peut-être peu nombreux, mais nous sommes un peuple, un tout petit peuple là, présent, là, si, avec nos yeux, on se voit pas beaucoup, hein, on n'est pas beaucoup. Mais quelle qualité de vie, d'intelligence, de lumière. Pourquoi? Parce que Dieu aussi nous a donné cette grâce de mettre un homme de Dieu, mais vraiment un homme de Dieu, consacré, intelligent, parce que Dieu lui a mis l'intelligence des choses qui viennent d'en haut pour que nous puissions le manifester. Et je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour le ministère. Et moi, je veux avoir les yeux qui voient à quel point Michel nous apporte des choses, mais qui viennent vraiment du cœur de Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Merci Seigneur de nous avoir donné un grand homme de Dieu comme Michel. Merci Jésus.